Bonjour et bienvenue dans mon émission. Je m'appelle Christina et je suis fan de développement personnel. À travers cette émission, je souhaitais te partager mon expérience, mon opinion et des anecdotes autour de l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi et d'autres sujets liés au développement personnel. Il s'agit d'un sujet qui monte énormément dans la conscience collective et il est très facile de trouver des définitions autour de ces sujets. Mais surtout, ce que je souhaite partager, ce sont plutôt des expériences en référence avec du vécu, mais également en lien avec des références bibliographiques qui m'ont beaucoup enrichi. J'inviterai également des personnes qui ont des expériences uniques et enrichissantes à partager autour de ce sujet. Alors, à très vite dans le prochain épisode! Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui vous aide à prendre conscience de votre valeur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir mon invitée exceptionnelle qui est Sandrine Sophie, la fondatrice ou cofondatrice de Kalia Nature. Et je vais la laisser se présenter parce que je pense qu'elle se présentera mieux que je la présente. Alors, merci Sandrine.
Merci Christina pour l'invitation. Donc, je suis Sandrine Sophie, bientôt 49 ans, maman de deux enfants. J'ai créé la marque Kalia Nature avec mon mari en décembre 2015. Kalia Nature est une marque de cosmétiques capillaires dédiée aux cheveux texturés, basée sur les ingrédients de la pharmacopée de la Caraïbe. Le but, c'est d'apporter des produits qui soient efficaces, naturel pour nos cheveux, tout en partant sur des ingrédients qui sont méconnus, parce qu'il faut savoir que la Caraïbe regorge de 700 fois plus de variétés de plantes et de fleurs que la France hexagonale. Voilà. Et méconnus, ce qui est bien dommage.
Exactement. Et moi, j'ai voulu t'interviewer parce que je t'ai connue hors de ce contexte-là et j'ai vu cette femme déterminée, on s'est rencontrés dans une salle de sport et qui avait pour moi une force, je ne sais pas comment vous dire, j'ai ressenti en elle une espèce de force et après je ne la voyais plus, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé, elle ne vient plus. Et en fait, elle était dans son projet, ce projet de fondation, de sa création de sa marque. Et après, on s'est retrouvés sur les réseaux et j'ai toujours suivi, et même j'utilise ces produits quand je n'ai pas de tresse, bien sûr, même quand j'en ai, je fais mon shampoing à travers. Mais voilà, je voulais déjà que tu nous expliques un petit peu ce parcours où tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat. Je pense que c'est important, des fois, surtout pour nos auditeurs et auditrices qui ont des fois du mal à se projeter, à aller au bout de leur projet, de leur rêve. Est-ce que tu peux nous parler de ce beau parcours, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Alors, il faut déjà remettre dans le contexte que je fais partie d'une famille d'entrepreneurs. Ma grand-mère vendait sur le marché couvert de Fort-de-France ses productions, ses huiles, des rhums arrangés, etc. Donc, du côté de ma grand-mère, mes oncles, mes tantes étaient déjà commerçants. Il faut savoir que mon premier business, je l'ai développé à l'âge de 9 ans. Wow. J'habitais un petit village dans le 77, un peu perdu, où les après-midi, les mercredis après-midi, les enfants n'avaient rien à faire. Et sans prévenir mes parents, j'ai organisé un club où je proposais soit à la session du jour ou un abonnement à mes camarades de classe de venir faire des échanges de timbres, puisqu'à l'époque, c'était à la mode, les échanges de timbres. Et le matin, je préparais des gâteaux et je revendais des parts de gâteaux, des jus, etc. Et bien entendu, ce rêve a pris cours le jour où une voisine a voulu inscrire son fils et j'ai pris peur parce qu'elle était amie avec ma mère et qu'elle l'a annoncé à ma mère. Donc là, j'ai pris cher. Et ma mère, à l'époque, m'a dit « Mais pourquoi tu as fait ça? C'est dangereux, les assurances, etc. » C'est vrai qu'à 9 ans, on ne pense pas à tout ça. Donc, je lui ai expliqué que c'était pour lui offrir avec mon propre argent un cadeau pour la fête des mères.
Wow, c'est beau, ça.
Et c'est vrai que sur le coup, ma mère n'a pas vu l'idée entrepreneuriat parce qu'on a une génération de parents qui sont très focalisés sur l'entreprise, travailler pour quelqu'un d'autre pendant des années, etc. Elle, tout ce qu'elle voyait, c'est que elle n'était pas prévenue qu'il y avait des enfants l'après-midi dans sa maison, qu'il pouvait y avoir des risques d'un point de vue assurance qui n'étaient pas couverts. Et ce qu'elle retenait, c'est que la voisine lui avait dit, mais c'était tellement bien organisé que je pensais que c'était un adulte qui était derrière tout ça. Voilà. Donc, et quelques années plus tard, à 40 ans, je me lance dans l'entrepreneuriat, mais je me lance dans l'entrepreneuriat un petit peu par la force des choses, puisque pour revenir un petit peu en arrière, à 31 ans, je donne naissance à ma fille Nila, qui est née grand prématurée avec des problématiques de santé respiratoire, allergène, etc. Et en grandissant, bah, ses cheveux, j'avais du mal à m'en occuper parce que je ne trouvais absolument rien adapté à nos besoins dans les magasins bio et naturels ici en France hexagonale. Et donc, ben, je me remémore ce que mamie faisait et je me mets à formuler les recettes de ma grand-mère en reprenant des matières premières que je demande à ma tante de m'envoyer depuis la Martinique et en achetant ici en France dans des magasins où on commence à vendre des matières premières naturelles. Et je commence à formuler pour ma fille sans avoir d'idée de créer une
Une
entreprise
marque, une
pour
cosmétique.
pour un besoin propre. Je travaillais chez L'Oréal, donc il faut savoir que je suis rentrée en 2001 chez L'Oréal. Mon activité principale, c'était le contrôle de gestion, donc rien à voir avec la formulation. J'étais dans un poste plus ou moins bien payé.
Administratif, oui.
J'ai fait plusieurs services où voilà, j'avais de bons retours de mes responsables, donc je n'avais pas de problème au niveau de mon activité. Mais c'est vrai qu'il y avait une prise de conscience sur la naturalité, sur les produits. J'étais dans un groupe qui mettait en avant la chimie, parce que L'Oréal est une entreprise qui fabrique des produits chimiques. Et il y a eu un changement de point de vue en 2008, où pour des tests, pour mon entreprise, parce que je faisais partie d'un service de recherche où on faisait des tests auprès du consommateur. Une de mes collègues vient de voir en me disant, oh, il y a une de nos testeuses qui nous fait défaut. On doit faire un test de défrisage à la concurrence. Est-ce que tu dois défriser tes cheveux prochainement? Parce que je défrisais mes cheveux à l'époque. Et je lui dis, bah, oui, volontiers, on y va ensemble. Donc, on y va ensemble, on arrive chez le concurrent en question qui arrive avec une boîte de Tupperware. Tu n'as aucune liste des ingrédients. Il ouvre le truc, soi-disant naturel. Ma collègue qui est chimiste me dit, désolée Sandrine, je t'expliquerai après. Et ils utilisaient une technologie ancienne qui s'appelle la technologie du thiolet, défrisage au thiolet, qui est la première technologie de défrisant, complètement incompatible avec les défrisants actuels qui sont faits à base, qui sont alcalins. Donc le défrisage assez cher, le soin de ce prestataire. Et là, elle me dit, bon, mais je suis désolée, Sandrine, tu ne pourras pas refaire de défrisage tout de suite sur tes cheveux, parce qu'il y a un risque. Il y a un risque que tu perdes tous tes cheveux, parce que les deux
Wow.
technologies sont complètement incompatibles l'une et l'autre. Effectivement, ma coiffeuse me dit la même chose. Et là, il y a quand même la prise de conscience où je me dis, j'inculque à mon enfant de prendre soin de ses cheveux, cheveux naturels, je lui fais des produits naturels pour ses cheveux. Et quel est le regard qu'elle a sur moi, sa mère qui défrise ses cheveux? Donc à ce moment-là, avec ma coiffeuse, je prends le pli, je lui dis, écoute, on défrise pas et je vais faire avec. Mais je vais faire avec, ça a été très compliqué. C'est-à-dire que je ne voulais pas
La
perdre mon
transition.
top. J'étais en transition. J'avais un cheveu qui poussait, dont le tronc était beaucoup plus solide que le cheveu défrisé, qui était beaucoup plus fin, abîmé par le défrisage. Je perdais énormément de cheveux à chaque fois que je les démêlais, que je les coiffais. Et donc, je commence à formuler pour moi des produits pour fortifier mon cheveu, pour éviter la casse, la fragilité. Et je fais mon big shop en janvier 2010, où là, je coupe tout, avec une repousse qui est à peu près de 10-15 cm. Et c'est là que je me décide, je prends ma décision, je dis c'est fini, plus de défrisage, plus de cochonnerie dans mes cheveux, je ne ferai que des produits naturels. Et c'est vrai qu'il y avait au début un petit engouement comme ça sur les réseaux sociaux, des blogs, enfin plutôt des
Napi.
forums. Des forums Napi où on échange
Ouais.
beaucoup. Et donc, à l'époque, j'échangeais déjà avec quelqu'un que tu connais très bien qui s'appelle Kelly Massol, qui tenait un forum
Oui, bien
qui
sûr.
s'appelle Coton. Sur
Exactement.
ben, le fait de fabriquer soi-même nos propres produits pour éviter de mettre des produits chimiques dans nos cheveux. Et donc, pendant tout ce laps de temps, je fabrique pour ma fille, pour moi.
Tout ça en étant autodidacte, en allant chercher les infos.
Autodidacte, me basant
Wow.
sur les recettes de ma grand-mère, passionnée par la formulation, donc en faisant mes
Ouais.
propres recherches. Et le déclic a lieu en 2014, où je me déplace où je pars en voyage avec mon mari, Christian, aux États-Unis. Et là, je me fais interpeller par plein d'afro-américaines qui s'arrêtent et qui mettent carrément leurs mains dans mes cheveux en disant, mais waouh, qu'est-ce que vous avez? Comment ça se fait que c'est
Les
hydraté
trucs qu'on
avec
adore,
vous?
hein, tu sais.
Bah, le truc qu'on adore, mais là-bas, ça les dérange pas. Hein.
Non,
Et
mais
mon
ça
mari me
dépend de
regarde,
qui touche.
mais je comprends pas, c'est le pays où on a le plus de produits pour tes cheveux et elle se pose encore la question de savoir comment tu arrives à avoir cette texture. Hein.
Parce qu'ils utilisent
Voilà.
beaucoup plus les perruques, non? C'est les
Elles utilisent
perruques
beaucoup plus de produits chimiques.
aussi.
Forcément, quand on utilise des produits chimiques, on a ce que moi je dis souvent, c'est que la chimie prend toujours le dessus sur le naturel. Donc, on n'a pas un
Exact.
résultat optimal sur nos cheveux quand on est avec un cheveu naturel, mais qu'on y introduit un produit capillaire qui est chimique. On se retrouve encore plus avec avec un cheveu desséché, un cuir chevelu sensibilisé, etc. C'est là qu'on décide de se poser la question de ben, créer Kélia Nature.
Et c'est beau ce que tu racontes parce que j'ai eu envie de faire la même chose à la salle de sport. Non, mais c'est vrai, ça devait être avant, c'était avant le Covid, 2018-2019, et je trouvais tes cheveux magnifiques. Et je crois que je sais plus si je t'avais posé la question, qu'est-ce que tu utilisais. Donc, je comprends hein, pourquoi elles ont eu envie de mettre leurs mains dans tes cheveux. Oui, donc du coup, la suite de cette belle expérience raconte.
Ben, la suite, c'est qu'on commence à étudier le marché avec mon mari. Moi, je ne suis pas formulatrice, donc je me dis, ben, je vais passer par un laboratoire, je vais leur apporter mes formules et ils vont les travailler. Et la plupart me disent, ben non, vous utilisez des ingrédients, le cocoum, alors, je n'avais pas encore de gamme à l'hibiscus, mais ils me disaient, le cocoum, on ne connaît pas, la sapote non plus, la spiruline, on ne travaille pas avec cette matière première-là comme vous le faites, ça va être compliqué pour intégrer vos matières premières, il va falloir. Ben, ça va être un peu plus cher. Il va falloir des MOQ, donc c'est-à-dire des quantités minimales qui sont importantes, donc avec des coûts astronomiques. Et je me suis dit, là, le projet, il va jamais se faire. Et dans mon esprit, je me suis dit, si tu peux pas passer par la porte, Sandrine, tu passes par la fenêtre. Pour passer par la fenêtre, je me suis formée. Donc j'ai suivi une formation accélérée en formulation des cosmétiques bio et artisanales. Et en réglementaire des cosmétiques, j'ai eu de très bonnes notes à ces diplômes que donc voilà, j'ai été diplômée
C'est que c'était ta voix.
d'excellentes notes. Et on a décidé avec Christian de créer le Kaya Nature en créant le laboratoire Kaya Nature dans le sous-sol de ma maison.
C'est magnifique.
Et je commence comme ça, toute seule, à développer et à créer la gamme de cosmétiques. Je travaille longtemps pour que les formulations soient stables au niveau réglementaire, etc. Et donc, on lance les produits et on a dû, pour se faire connaître, on a dû commencer par faire des petits salons. Donc, des petits salons dans des associations afro-caribéennes. Cet argent, je réinvestis pour faire
Pour
de plus
faire
gros
des
salons.
produits. Ah, d'accord.
Voilà, produits, mais d'autres plus gros salons. Donc, je ne me rémunère pas tout ce laps de temps où je travaille sur ces produits.
En
J'avais une.
attendant, tu avais arrêté, tu étais en dispo, enfin, ou
Alors, j'étais
t'avais.
toujours chez L'Oréal.
Donc,
Il faut savoir que
c'est-à-dire que tu menais tout de front, quoi.
je travaillais chez L'Oréal et je faisais tout le soir et le week-end. Et quand on a vu en 2018 que ça prenait des proportions assez importantes au niveau de Kalia Nature, je décide de demander une rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle qui est refusée. Refusée parce que, ben, comme me dit ma responsable, on accepte volontiers une rupture conventionnelle quand on a de mauvais éléments, mais quand on a de bons éléments, on a du mal à les laisser partir. Donc, ma responsable m'accompagne quand même à l'époque en me disant, effectivement, je pense que tu n'es pas à ta place ici et que tu as beaucoup de choses à prouver. Donc, elle appuie ma demande auprès des DRH. Et donc, janvier 2019, je commence à être à 100% chez Kalia Nature. Je travaille toute seule, c'est très dur. Donc, je fabrique, je fais le service après-vente, je fais les expéditions, je fais la comptabilité, je fais la gestion, je fais tout toute seule en 2019. Et 6 mois
Et
après,
en plus, elle a le temps de faire le sport, hein, n'oubliez pas.
le midi, j'allais faire le sport, c'était une priorité pour mon bien-être. Le midi, j'allais à la salle de sport,
C'est
effectivement.
ce que je veux souligner, et c'est ça. Mais je te laisse terminer parce que j'ai tellement de questions par rapport à tout ce que tu as dit. Vas-y.
Et donc, en juin 2019, je reçois mon premier prix, le prix du meilleur living à la Natural Air Academy pour un produit que j'avais développé en 2018, qui est mon premier produit 3 en 1, qui est la crème d'hibiscus, que j'avais
J'ai commencé
travaillé
par
pour
ça aussi.
les cheveux peu poreux. J'avais ma fille Nila qui était prépubère, son cheveu avait complètement changé. Les premiers produits que j'avais travaillés pour elle ne lui convenaient plus. Parce qu'en étudiant le cheveu, l'huile de coco, certaines compositions, il
Ne
fallait,
vont pas à tous les cheveux.
voilà exactement, il fallait aussi travailler la porosité du cheveu, ce qui, sur le cheveu texturé dans les gammes de produits, n'est pas du tout mis en avant. Et donc, ce produit remporte un succès énorme. Et donc,
Magnifique.
je reçois ce prix à la Natural Air Academy. 30 testeuses ont testé à l'aveugle mon produit avec celui de d'autres marques bien connues. Et il en ressort que ben, il est bien meilleur. Et donc, je reçois ce prix. Et c'est une consécration à un moment où je suis dans un mindset de down, parce que c'est dur de
C'est
tout
dur.
le front. En plus de sa vie de maman, j'ai 2 enfants. Pas évident. Et là, je me dis, ben voilà, le Seigneur, il m'envoie un signe. Je reçois un premier prix, c'est qu'il faut continuer à se battre.
C'est exactement la transition que je veux faire. Et en fait, là, tu vois, j'ai des frissons parce que je ressens cet engouement et cette force que tu as eue pendant tout ce périple pour moi. Parce que finalement, il y a des gens qui auraient abandonné. Et t'as jamais lâché parce que tu as cru en toi et tu as cru en ton rêve. Et c'est aussi en ça que j'aime vraiment beaucoup interviewer des personnes comme toi parce que entre les croyances limitantes, l'entourage et tout ce qu'il peut y avoir autour qui dit mais en fait elle s'acharne ou pourquoi elle continue, pourquoi elle persévère en fait, elle voit bien que c'est trop dur, elle va tomber tôt ou tard. Et en fait non, t'as pas lâché. Et je trouve que c'est formidable. Donc moi je voulais juste savoir déjà par première question, est-ce qu'il y a eu ces moments-là de phase où tu avais envie d'abandonner et quelles étaient tes croyances, tes peurs? Et puis on parlera après de l'entourage, j'enchaînerai là-dessus. Dis-moi.
Alors, mes croyances, pour tout te dire, je pense qu'avec mon mari, on s'est lancé un peu, on était un peu des malades. Parce qu'on s'est lancé, on croyait tellement en notre projet que c'est vrai qu'on ne s'est pas dit, est-ce que le marché, on le connaissait. Donc, je me suis dit, ce besoin que j'ai, on est des milliers à l'avoir. Donc, forcément, le marché, il est là, même si les grands groupes comme L'Oréal, dans lequel je travaillais, et en interne, où j'insistais en disant les produits ne sont pas adaptés à nos cheveux, etc., on ne m'écoutait pas. Maintenant, ils sont en train de faire des produits pour cheveux texturés. Bon, je ne dirais rien. On était un peu des fous parce qu'on a tout fait dans notre coin sans essayer de chercher d'aide, de subvention. Moi, j'ai fait de l'autofinancement, hein. J'ai tout financé mon entreprise en partant avec 3 500 euros en poche que ma mère, ma belle-mère, mon mari et moi, nous avions investi au départ dans l'entreprise. Et on s'est lancé dedans parce qu'on y croyait dur comme fer. Mais quand tu te lances dur comme fer, tu t'attends pas à ce que ça soit dur comme fer.
C'est ça.
Le job, hein.
Mais
Et
en fait, tu as eu quand même, tu vois, l'investissement de. Tu as vu l'entourage, finalement, tes parents, enfin, tu me dis ta mère, ta belle-mère, et ton mari aussi, en fait. Donc, cette
j'étais pas seule.
force-là que vous étiez, voilà, on dit les 5 personnes qui t'entourent, et peut-être que tu en avais un peu plus,
Ah ben,
mais
un peu
quelque
plus, oui,
part.
parce que je te parle d'eux, mais je parle pas de mon oncle et de ma tante qui venaient parfois le week-end m'aider à faire du remplissage quand il y avait des salons, des cousins, des cousines qui venaient sur les salons parce que voilà, pour venir aider, parce qu'il n'y avait pas forcément les moyens d'embaucher du personnel à ce moment-là.
Ils ont cru en toi aussi.
Exactement. Et donc, j'ai toute ma famille derrière moi pour m'aider et m'accompagner. Et donc, c'est à partir de là qu'en septembre 2019, j'embauche ma première salariée pour m'aider, que je forme au laboratoire, qui me soulage un petit peu. Et puis, en décembre 2019, la mère de la femme de mon cousin me dit, mais Sandrine, tu ne te rends pas compte de où est-ce que Kalia est? Elle me dit, toi, tu as l'impression que Kalia est petit, mais Kalia est là, il est devant. Tu es en train de courir après Dahlia. Kalia, là où tu es, le laboratoire que tu as fait, c'est trop petit. Il faut que tu vois plus grand. Là, c'est plus possible de continuer comme tu fais. C'est là qu'avec Christian, on se décide de chercher un autre local. On se dit effectivement, là, le sous-sol, les 8 mètres carrés de labo, avec un petit bout de coin de table pour faire ma compta, etc., c'est plus
C'est plus
possible.
possible.
On décide de trouver un local et effectivement, on trouve très rapidement un local à Bondy qui devient le lab numéro 2. Mais ça, c'est en
Un peu de temps.
janvier 2020. Et
Ah,
2020, on fait.
Covid
On se dit,
après.
on va faire des travaux. Et qu'est-ce qui se passe en mars 2020?
Ouais, le
On est
Covid.
confiné. On est confiné. Et donc, les travaux dans mon nouveau local ne peuvent pas commencer. Je négocie avec le bailleur en disant qu'on ne peut pas commencer les travaux, etc. Est-ce qu'on peut ne pas commencer à verser le loyer? Et moi, je continue pendant le confinement à travailler dans le sous-sol de ma maison qui est le laboratoire. Et j'avais ma deuxième personne que je venais tout juste d'embaucher.
D'employés, ouais.
Et je lui dis, bah, écoute, avec le confinement, il y a ce qui avait été mis en place par le gouvernement, c'est-à-dire proposer aux salariés de rester chez eux. Ils touchent pour garde d'enfants quelque chose. Et donc, ma première salariée me dit, bah, j'ai pas le choix, je dois garder mon enfant, donc je le prends. Et la deuxième qui vient d'arriver, je lui dis, bah, écoute, tu viens d'arriver, on va arrêter le contrat et t'inquiète pas, je te reprendrai quand tout sera remis en place. Elle me dit, non, non, moi je viens d'arriver, ok, j'ai quelqu'un qui peut garder mes enfants, je reste avec toi. Et on bosse
Incroyable.
avec elle, elle y croit dur comme fer, elle s'occupe de la logistique, je fais des produits et pendant le confinement, on cartonne, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de continuer à travailler, à envoyer des produits. J'avais déjà ce qu'on appelle du business en B2B, c'est-à-dire des revendeurs qui revendaient mes produits. Donc, ils passaient commande parce qu'ils avaient une boutique en ligne. Et les ventes en B2C, donc les particuliers, cartonnaient sur ma boutique en ligne. Et en parallèle, il y avait une box qui s'appelle Misani qui sortait mes produits aussi. Je fais pas mal de conférences sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et à chaque fois que je fais un live Instagram, les ventes cartonnent. Et en parallèle, moi, je continue à chercher le financement pour des travaux de mon nouveau local auprès de banques. J'en fais 15 et ce sont 15 refus dans ma banque. Il y en a même une qui répond à ma conseillère bancaire qui est une amie. Les travaux de quelle nature sont plus chers que les travaux d'un kebab. Donc, tu vois là où les banques te.
Oh, sympa. Il y en a 10 000 des kebabs.
Tu es issu de la diversité, tu es afro, tu veux faire quelque chose dans le
C'est
93, c'est
compliqué.
forcément pour
Hors
un
qu'un
kebab.
kebab, hors qu'un kebab, voilà, c'est ça.
Voilà. Bon.
Wow.
Eh ben, j'autofinance encore une fois les travaux de mon lab 2 à Bondy en partie en me disant j'espère que j'arriverai à terminer le paiement de ces travaux. Et en parallèle, je continue toujours à trouver une banque et j'ai une banque qui m'accompagne parce que le conseiller est afro qui co comprend le business et il se bat pour financer le restant de ses travaux. Et c'est comme ça qu'en septembre 2020, on intègre le lab 2 de Quelle Nature à Bondy, qui inclut un laboratoire vitré, un showroom où on peut accueillir
Oui,
des
je crois que je
clients
l'ai vu sur les réseaux, c'est super
et,
beau.
euh, et, et nos bureaux. Et là, je peux commencer à embaucher d'autres personnes. Voilà.
C'est génial. Et en tout cas, c'est vraiment un parcours inspirant et on voit quelque part, tu as une résilience, mais une force, parce que quelque part, toutes ces difficultés, t'as jamais lâché, en fait. Oui, je voulais juste te reposer la question concernant un petit peu ben, dont on parle, l'estime de soi et prendre conscience de sa valeur. Est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs quelque chose qui pourrait justement les aider, les convaincre en fait quelque part qu'il faut travailler sur soi, miser sur soi et surtout croire en soi?
Alors, miser sur soi, oui, parce que les entrepreneurs se rendront compte, surtout quand ils prendront du personnel, qu'ils ne trouveront jamais personne qui fera mieux qu'eux. C'est normal parce que c'est ton entreprise et que tu t'investis à 1000% dans ton projet et que les personnes que tu vas embaucher n'auront pas le même intérêt. Ils sont là pour toucher un salaire et n'ont pas la même vision que toi. Mais il ne faut pas hésiter à être insistant, à ne pas prendre la première personne. Il faut trouver quelqu'un qui a le même mindset que toi. qui va vouloir s'investir, qui va croire en ton projet et qui va croire que si ce projet grandit, il pourra grandir, elle pourra grandir, pardon, cette personne avec ton projet. Méfiance quand on veut travailler avec la famille ou les amis. Parfois, on a du mal à faire la part des choses entre la partie amicale, familiale et l'entreprise. Donc ça, faire très attention. Donc l'entourage, c'est ce que je dis, c'est hyper important de travailler dessus dès le départ. Pas se lancer tête baissée dans le projet en se disant ah oh, ben mon pote il va vouloir m'aider machin mon ami etc. Et surtout toujours se donner des objectifs atteignables smart mais avoir une vision le plus loin possible avancer étape par étape vers sa vision ça c'est hyper important ne pas brûler les étapes.
C'est ça.
Mon regret, c'est de ne pas avoir été dans une pépinière ou de ne pas avoir sollicité des organismes tels que Réseau Entreprendre ou Initiative, parce qu'ils sont là pour accompagner des entrepreneurs. Ils te donnent des tips ou des informations qui peuvent t'aider. Donc, j'ai tout appris toute seule. Ça a été 2 fois plus dur. Et c'est peut-être aussi pour ça que mon entreprise prend une ascension étape par étape plus lente que certaines entreprises qui se font aider. C'est pas grave. Pour moi, c'est OK parce que j'apprends et ça me permet effectivement de mieux maîtriser certaines choses. Nous, on a été rentable dès le départ. Donc, ça m'a permis quelques années plus tard de revenir voir les banques en disant bah, pour mon lab numéro 3 qui se trouve au Mesnil-Amelot, d'avoir enfin des banques qui m'accompagnent parce que j'ai pu prouver que j'avais du chiffre d'affaires, que j'étais rentable et que là, ça méritait effectivement de se pencher dessus parce qu'il faut savoir une chose, les banques ne prêtent qu'aux riches.
C'est dur à dire. Je voulais peut-être parler de quelque chose qui est un peu plus difficile, mais tu en parles aussi sur les réseaux, et c'est aussi en ça que je vois en toi une force de la maladie qui est survenue. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Parce que moi, je trouve que c'est tellement beau ce que tu prônes, parce que mine de rien, tu as perdu tes cheveux, alors que tu fais des produits pour les cheveux. Cette femme, moi, je l'admire parce qu'elle n'a aucun moment, en tout cas, elle a laissé transparaître. Bon, bien sûr que c'est difficile comme épreuve, mais je voudrais encourager ces femmes qui ont des pathologies comme la tienne, hein, cette tumeur qui a surgi, je ne sais pas quand, si tu veux nous en parler un petit peu, et puis donner aussi un encouragement, une force à toutes ces femmes qui sont atteintes d'un cancer.
Bah écoute, moi je fais partie d'une famille où il y a effectivement beaucoup de cas de cancer. J'ai perdu mon oncle il y a 2 ans d'un cancer. J'ai ma tante qui est pour moi comme une mère parce qu'elle m'a élevée quand j'étais petite, qui a eu 3 cancers, 2 du sein et 1 des ovaires. Elle vient tout juste de terminer son protocole de soins pour les ovaires. Et lorsqu'elle a eu son cancer des ovaires, on lui a demandé de faire le test génétique, ce qu'elle a refusé pendant des années de faire. Et lorsqu'elle a fait son test génétique, c'était le moment du Covid. Donc, elle nous a remis à toutes les femmes de la famille un courrier nous disant ben, de prendre attache avec le généticien pour faire ce test. Et à l'époque, ben, avec le confinement et autres, c'était compliqué. Donc, moi, j'ai mis ce courrier de côté. Et je me suis dit, je vais m'en occuper après. Puis j'ai oublié, hein, femme d'affaires, entreprise, tu vois, j'avais autre chose à penser. Et en juin 2022, mon conjoint, mon mari, puisque nous sommes mariés maintenant depuis 2 ans, me dit un matin, écoute, je ne voulais pas t'embêter avec ça hier soir, mais est-ce que tu as déjà senti cette boule sur ce sein, le sein gauche? Ah, alors, j'ai dit non, effectivement, parce que je fais très attention, je fais ce qu'on appelle l'autoplacage. Et donc, souvent, j'avais des ganglions sous les bras. Donc, on faisait des tests, on analysait et c'était anodin. Donc, il n'y avait pas lieu de s'alarmer. Mais là, sur le sein, non. Donc, je décide de prendre rendez-vous. Et là, ça s'enchaîne très vite. Ça s'enchaîne très vite. C'est-à-dire que 10 jours après mon 47e anniversaire, donc le 18 août, après avoir fait radio, mammo, biopsie, le couperet tombe. J'ai un cancer triple négatif. Qui est un cancer spécifique, puisque c'est un cancer qui est généralement dû à un gène. Et donc là, très rapidement, je prends rendez-vous avec le généticien qui me prend en priorité par rapport à ma tante, puisque c'est la première vers qui le généticien de l'hôpital Saint-Louis a organisé ce qu'on appelle une généalogie des cancers. Et donc, je m'y rends avec ma mère et effectivement, on fait le test génétique et effectivement, j'ai ce
Vous avez
gène
déjà.
qui est le BRCA1, qui est un des cancers les plus dangereux, les plus mortels, s'il n'est pas pris à temps, puisqu'il se transforme en métastase très rapidement. Et donc, la plupart du temps, il y a des décès. J'ai effectivement deux cousines à ma tante et ma mère qui sont décédées de ce cancer du sein. Donc, on l'a pris très rapidement, une taille très petite, donc
Heureusement.
par le choc, ce 18 août,
C'est ça,
et de
c'est
se
ça.
dire, je vais perdre tous mes cheveux. Et c'était
Oui.
un vrai paradoxe de se dire, j'ai développé une marque de cosmétiques capillaires pour apprendre aux femmes à prendre soin de leurs cheveux, à favoriser la pousse des cheveux, et moi, Sandrine Sophie, je vais perdre mes cheveux. Et ça a été un vrai choc. On pense à la mort aussi, parce qu'on se dit, bah, il faut faire tout le nécessaire pour éviter cela. Moi, j'avais aussi en face de moi une femme battante, ma tante, qui a survécu à deux cancers du sein, qui était en cours de traitement pour son cancer des ovaires. Et le pire dans tout ça, c'est que, bah, fallait gérer un cancer et une entreprise. Parce que, bien entendu, quand on a un cancer et qu'on est chef d'entreprise, on n'est absolument pas suivi comme un salarié qui peut s'arrêter complètement, qui touche à la fin du mois
Son salaire.
tout son salaire. Nous, on n'a quasiment pas d'aide. J'ai eu la chance de rencontrer un bon comptable qui m'a dit, est-ce que vous avez vu avec quelqu'un en patrimoine qui peut vous donner des astuces, des choses, parce que vous ne payez pas de salaire à la fin du mois, donc pour vous accompagner, pour faire des choses, pour vous aider. Et donc, je venais tout juste de prendre une prévoyance. Sauf que je l'ai signé en juin et une prévoyance, il y a 90 jours de carence. Et donc la prévoyance ne me suit pas non plus.
Oh.
Et donc je me retrouve avec peanuts en accompagnement par la sécurité sociale. Et donc
Avec
voilà.
tout ce que tu as géré financièrement par rapport à ça.
Exactement. Donc je me retrouve sans le sou. Avec quand même mon mari qui travaille dans l'entreprise, donc on se retrouve diminué d'un salaire sur deux, et l'arrivée d'une directrice commerciale qui me sollicitait depuis un an ou deux pour venir travailler avec moi, et je lui disais, mais non, je ne peux pas te payer, je n'ai pas les moyens de mettre ce que ton grand groupe te paye, et elle décide quand même, elle dit, c'est pas grave, moi je crois en Caliénature, ce que je vais te faire gagner en chiffre d'affaires, ça va pouvoir justifier après mon salaire. Et effectivement, elle arrive au moment où moi je pars et je me repose sur les épaules de mon CODIR, donc de mon comité de direction, qui sont mon mari, Wafa et Cynthia, pour gérer l'entreprise pendant que je dois me faire traiter de mon cancer. Alors, bien entendu, je ne viens pas travailler, mais je regarde au loin ce qui se passe, hein, ce qui se fait. Je donne toujours mes décisions, mais je dois gérer effectivement cette maladie qui a été très très compliquée puisque dès ma première chimio, j'ai dû être hospitalisée parce que j'ai fait une aplasie, j'ai failli mourir.
Oh. Je suis très très émue de ton parcours en tout cas. Très émue que par ta résilience, vraiment. Et je pense que ça peut vraiment encourager toutes ces femmes qui doutent de leur valeur et face aussi à l'adversité, face à la maladie, qui des fois n'ont pas le courage de surmonter des épreuves telles que toi tu surmontes en fait. Cette épreuve-là, elle est difficile pour beaucoup. J'ai interviewé une femme aussi il y a quelques années déjà, quand j'ai commencé le podcast, qui a un cancer du sein et elle a une récidive. Et elle parlait vraiment de l'estime de soi, de prendre soin de soi. C'est vrai que l'entreprise, ça t'a demandé beaucoup d'efforts, mais c'était important de prendre soin de soi et de prendre du temps pour soi, d'accueillir des moments d'introspection. Et si tu voulais nous partager, en fait, peut-être un mot de la fin sur cette façon que tu as peut-être désormais d'avancer.
Alors, cette façon d'avancer, alors je ne dirais pas effectivement que tout a été rose, ça a été très compliqué psychologiquement, il y a eu aussi beaucoup d'introspection, mais ce qui s'est passé lorsque j'ai eu mon cancer, c'est que au même moment, il m'arrivait plein de bonnes choses. C'est-à-dire que je recevais des prix. J'ai reçu 2 mois après ma première chimio le prix Innovation Outre-mer, Un mois après, le prix du meilleur artisan d'Île-de-France du département du 93. 2 mois après cela, on annonçait que Kaya Nature avait 5 produits élus de produits de l'année 2023. Et à chaque fois, je négociais avec mon oncologue en disant non, pas de chimio à ce moment-là pour pas être malade parce que je vais recevoir un prix, il faut que je sois bien. Alors, je portais une prothèse capillaire parce que pour moi, ça a été très difficile de montrer mon crâne nu, pas évident. Et en même temps aussi, je ne voulais pas que ça perturbe mon business, que de l'extérieur, des personnes sachent, hein, parce que j'en ai parlé ouvertement sur mes réseaux sociaux, mais c'est en règle générale des gens qui me suivent, hein, pas forcément des professionnels type banquier, homme d'affaires, etc., qui me suivent et qui auraient pu utiliser cette faiblesse pour en faire quelque chose. Et donc, en parallèle de ces difficultés de maladie, il y avait de belles choses qui arrivaient. Et c'est comme pour 2019, quand j'ai reçu le premier prix à la NHA, au moment où j'en pouvais plus, je pleurais, je me disais, mais non, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai fait cette folie de quitter un poste, un job où j'étais bien payée, etc. Oui, on prend des risques. Oui, on peut redescendre de très bas, mais c'est en chutant qu'on apprend à se relever. On
C'est vrai.
n'arrivera jamais à se relever si on ne chute pas.
C'est ça. Et en fait, ça me vient l'idée que, bon, j'ai entendu, tu disais, bon, tu crois, t'as la foi, et cette force divine qui montre quand même que malgré toutes les épreuves, on a toujours des cadeaux. Et c'est beau parce que tu reçois des cadeaux, parce que ce que tu fais, c'était sur ta voie, c'est pour te montrer, ne lâche pas, en fait. Parce que regarde, t'as des cadeaux derrière. Moi, je vois ça aussi comme ça.
Mais si tu ne peux, pour moi, tu ne peux pas savourer une réussite s'il n'y a pas eu une difficulté avant. Et la difficulté avant, c'est le tunnel. Hein. Le tunnel, tu dois avancer. Si tu restes sur place, tu restes dans la difficulté. Mais si tu avances, au bout, il y a la lumière. Et on a chacun en nous cette lumière. Et c'est cette lumière qui doit jaillir, qu'on doit entretenir et qu'on doit développer. Et si je ne devais parler que d'un mot de la fin, il y en a deux que je voudrais préciser. Une qui me suit toujours, c'est l'histoire que racontait Monsieur Pierre Rabhi, qui était écologiste, et qui racontait l'histoire du colibri. Je ne sais pas si tu la connais, cette histoire du colibri. Mais un jour, il y a eu un feu dans la forêt et tous les animaux de la forêt s'enfuient, apeurés, sauf ce petit colibri qui allait chercher à la rivière un petit peu d'eau dans son bec pour le déverser au-dessus de la forêt. Et les autres lui disaient, mais le colibri, t'es malade, tu vas jamais y arriver comme ça. Et le colibri disait, ben, je fais ma part. Si chacun de nous faisait sa part, on
C'est ça.
arriverait à éteindre ce feu.
C'est exactement ça. On a tous notre pierre à apporter.
Exactement. Et là où certaines personnes s'imaginent que parce qu'elles sont salariées ou parce qu'elles sont à des postes ou à des jobs qu'elles considèrent ingrates, ce n'est pas vrai. On a tous notre pierre à l'édifice à mener. On a tous notre part à faire. Mais cette part, il faut y réfléchir intelligemment et savoir comment on veut le faire. Voilà, tout
J'avais
simplement.
envie de dire encore plein de choses, mais le temps est imparti. Merci pour le temps que tu m'as consacré. En tout cas, c'est un beau mot de la fin. Moi, je trouve que c'est très beau de terminer comme ça, avec cette belle anecdote de l'histoire du colibri. Je sais où on peut te retrouver, moi, mais en tout cas, dites-nous où on peut te retrouver sur les réseaux et je le mettrai dans la description.
Ah ben, on peut trouver les produits Kaya Nature sur notre site www.kalianature.com. Chez de nombreux revendeurs, des pharmacies, des magasins, des salons de coiffure, des e-shops. On peut nous retrouver en France hexagonale dans les Dromcom, donc aussi bien la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Martin, la Guadeloupe. On peut nous retrouver également en Allemagne, Belgique, Luxembourg, Suisse, Espagne, au Canada et depuis peu, la Côte d'Ivoire et le Maroc.
Génial, l'Afrique aussi, super, c'est génial. En tout cas, merci pour ce beau moment passé avec toi, Sandrine. J'espère que ce podcast vous mettra des étincelles dans les yeux comme moi j'en ai eu là en partageant ce moment avec elle. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode bientôt. Merci,
Merci.
Sandrine.
À très bientôt, au revoir.
À bientôt. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mais également, vous pouvez me suivre sur mon Instagram, c'est Tina Coppa. Je vous dis à très vite au prochain épisode.